Le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, invité Marine Le Pen, présidente du Front National. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du Grand Jury. Vous en êtes l'invité, Marine Le Pen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujotte du Figaro et de Frédéric Delpech d'LCI. Donc nous vous accueillons en tant que présidente du Front National et puis aussi en tant que candidate à l'élection présidentielle du printemps prochain. Les parrainages, ça avance, il y a des promesses,
Heureusement déjà un certain nombre de promesses, mais je sais que cet obstacle sera difficile, comme il l'a toujours été. Puisque c'est l'objectif, en réalité, de la part des grands partis, c'est de rendre ce recueil de parrainages, qui sont pourtant un acte purement administratif, le plus compliqué, le plus long, le plus coûteux possible, et notamment en énergie. Ça me permet d'en appeler à tous les maires qui ont au cœur la démocratie, pour me permettre, sans trop de difficultés, de recueillir ces 500 parrainages qui permettront à des millions de Français de pouvoir voter pour moi.
En même temps, depuis 30 ans, ils ne vous ont jamais fait défaut. En 81, il y avait un défaut, mais depuis, chaque fois, le candidat du Front National a pu avoir ses parrainages.
Permettez-moi, monsieur Apathy, pour en avoir été témoin, de vous dire que la balle n'est pas passée loin, ni en 2002, ni en 2007.
Est-ce que ça n'est pas la traduction, au moins d'une faiblesse, je dirais, territoriale du Front National ? Vous faites de bons résultats, mais parfois très bons aux élections nationales, mais clairement, vous avez du mal au plan municipal, au plan... La preuve.
Mais monsieur, tous les modes de scrutin en France ont été conçus depuis 30 ans pour empêcher le Front National d'accéder aux affaires. À chaque fois, d'ailleurs, on les modifie dès que le Front National a la possibilité de pouvoir gagner des élections. Alors évidemment, la conséquence, c'est que nous n'avons pas les élus que nous devrions avoir, compte tenu de l'importance, de l'écho, de l'adhésion est celle du Front National dans le peuple français. C'est ainsi, je le rappelle, mais une fois de plus, que alors que nous faisons entre, selon les élections, 10, 15, voire 20% des voix, eh bien nous n'avons aucun conseil généraux, nous n'avons aucun député à l'Assemblée nationale, et des millions de Français sont ainsi privés de pouvoir exprimer leur voix dans les instances qui sont pourtant fabriquées, construites, conçues à cet effet.
Bon, voilà. Une question de Frédéric Delpech. Moi, j'avais juste posé une question sur les parrainages en pensant que, bon, mais voyez, du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Frédéric Delpech.
Vous n'êtes pas encore complètement officiellement candidate. Ce sera sans doute pour bientôt. Vous tenez le 19 novembre une convention pour présenter votre projet. Est-ce qu'on connaîtra vraiment votre projet ou est-ce que vous pensez qu'il est encore trop tôt compte tenu des perspectives de croissance qui sont révisées à la baisse, qui obligent tous les candidats à l'élection présidentielle à adapter leur projet? Est-ce que vous pourrez présenter un projet aux Français dès le 19 novembre?
Oui, je présenterai mon projet présidentiel aux Français, en sachant que quelques semaines plus tard, nous présenterons le programme législatif. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Encore une fois, nous partons à une élection présidentielle. L'objectif d'un président de la République, c'est de fixer les grandes lignes, c'est de montrer quelle est la vision qu'il a de l'avenir de notre pays, quelle est la vision qu'il a de l'économie, quelle est la vision qu'il a de l'homme, et pourquoi un certain nombre de propositions sont faites en adéquation avec cette vision. Et c'est cela que je le ferai le 19 novembre. Je parlerai de l'avenir de la France. Je parlerai de la nécessaire, du nécessaire rétablissement de l'autorité de l'État. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autorité de l'État, monsieur, sans maîtrise des frontières, sans maîtrise des processus économiques, sans maîtrise de la monnaie. Je parlerai de la vision que j'ai de l'homme qui, je crois, n'est pas défendu en France aujourd'hui, qui fait que les salariés dans notre pays ont le sentiment d'être devenus des machines, dont on cherche à obtenir de la compétitivité à tout prix. Il faut qu'ils coûtent le moins cher et qu'ils rapportent le plus. Je n'ai pas cette vision-là de l'entreprise. Et toutes les propositions que je ferai seront en adéquation avec cette vision que j'ai.
Il faudra attendre donc un peu plus tard.
Non, je donnerai les grandes pistes, mais j'ai déjà commencé à le faire. Les grandes pistes de mon projet de redressement économique pour retrouver, encore une fois, la maîtrise, retrouver la liberté, redonner un avenir à ceux qui, aujourd'hui, dans notre pays, sont en voie de désespérance, ont le sentiment qu'il y a une sorte de fatalité. J'irai leur dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une fatalité. Il n'y a qu'une seule possibilité pour eux de se sortir de cela, c'est de le décider. De le décider et de voter en conséquence. On aura l'occasion de parler de l'Europe et nous aurons...
On va peut-être le faire maintenant.
Eh bien, oui, bien faisons-le maintenant. Regardez.
Mais attends, peut-être à partir d'une question quand même.
Si ça,
parce que voilà, ça se passe comme ça. Et voilà, ça se passe comme ça. Voilà. L'Europe, alors, on connaît vos positions sur l'Europe, l'hostilité à l'euro, tout ça. Malgré tout, si on est pragmatique, il n'y a pas que des grandes visions, il y a aussi des problèmes concrets. Avoir remis 50% de la dette grecque, et en faire supporter le coût aux banques, dans le contexte, c'était une bonne ou une mauvaise décision?
Ça, c'est Monsieur Abadie, j'étais absolument sûr que vous feriez ça.
C'est vrai? Je suis prévisible à ce point?
Oui, un peu, parce que il y a une dérive, je crois, dans la politique actuelle qui consiste à regarder la politique par le petit bout de la lorgnette, y compris sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on prend...
Ça, c'est le petit bout de la lorgnette.
Mais oui, monsieur, parce que comprenez bien que la politique économique aujourd'hui, c'est une succession de mesurettes. C'est une succession de mesurettes que l'on prend d'ailleurs et qui ne sont pas connectées les unes aux autres. C'est un peu comme la politique fiscale. On a fait 27 taxes depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Alors, tout y est passé, au soda, etc., etc. Quelle est la vision globale que l'on doit avoir.
On ne peut pas parler que de vision, c'est pour le concret.
Si monsieur, permettez-moi, si je peux
alors, la vision globale, et ensuite la Grèce.
On va en parler de la Grèce.
Mais d'abord la vision.
On va en parler, on rappellera d'ailleurs que monsieur Fillon avait, puisque monsieur Strauss-Kahn avait proposé sa solution, monsieur Fillon avait immédiatement dit que c'était irresponsable. Bon, je vois donc que monsieur Fillon est plus proche de monsieur Strauss-Kahn qu'il ne l'est de monsieur Sarkozy. La réalité, c'est que ceux qui ont construit cette Union européenne nous ont amené dans un piège. Ont amené les peuples dans un piège. Cette Union européenne, elle devait apporter, souvenez-vous, la croissance, elle devait apporter l'emploi, elle devait apporter le bonheur, la liberté au peuple. Elle devait, ça sonne encore à mon oreille, faire de l'Europe la puissance, la zone économique la plus puissante du monde. La réalité, c'est que cette Union européenne s'est transformée en cauchemar. Elle est tombée entre les mains de technocrates qui ont multiplié les normes et les règles qu'ont vécu, qu'ont subi les acteurs économiques de la vie française. Parce que, comme vous dites, ça n'est pas déconnecté. Il y a des gens derrière qui montent des entreprises, qui subissent ces normes. Il y a des commerçants, il y a des gens qui ont vu se multiplier des paperasses insupportables qui les ont empêchés, effectivement, de créer l'emploi au travers de leur puissance de création. Elle est tombée entre les mains d'utopistes qui ont construit une monnaie unique qui s'est avéré être un carcan insupportable pour la vie économique. Une monnaie trop forte qui a poussé aux délocalisations, qui a entraîné le chômage, qui a plombé définitivement nos exportations, puisque nous ne pouvons plus exporter dans de bonnes conditions avec une monnaie si forte. Aujourd'hui, le piège se referme par l'intermédiaire de la dette. Nous sommes censés être solidaires des dettes de nos voisins à cause de cette construction européenne. Et on demande aujourd'hui aux Français de faire des sacrifices inouïs, de faire des sacrifices en payant des taxes, en augmentant les mutuelles, demain probablement en augmentant la TVA, pour payer à n'en plus finir et s'endetter à n'en plus finir pour régler les dettes des voisins. Cette situation ne peut plus
Est-ce
tenir.
Est-ce que la faillite grecque aurait été une meilleure solution?
Mais je crois, monsieur, qu'il aurait fallu faire ce que je propose depuis de nombreux mois. Et c'est-à-dire faire une sortie concertée, réfléchie, planifiée de l'euro avec nos partenaires européens. Excusez-moi, aujourd'hui, monsieur Apathy, je sais ce que vous allez me dire.
Décidément.
Mais oui.
Il va falloir que
vous allez me dire aujourd'hui, les dirigeants européens ne sont pas d'accord. Oui, mais les peuples le sont.
J'allais vous dire ça.
Ah, ben voilà. Ah, vous voyez comme quoi je vous connais très bien, monsieur Apathy.
Oui, mais malgré tout, je repose ma question. Est-ce que vous pensez, puisque les choses étant ce qu'elles sont, les dirigeants européens étaient réunis jeudi, est-ce qu'il valait mieux laisser la Grèce faire faillite? Voilà. Est-ce que c'était mieux?
Il faut, monsieur, aujourd'hui, c'est un marché de dupes. On a pris des mesures dont on sait pertinemment, tout le monde le sait, qu'elles ne changeront rien à l'effet de domino de la contagion des dettes des pays d'Europe. On sait que les uns après les autres, ces pays vont tomber. Et personne n'a le courage, c'est le sentiment que j'ai dans les dirigeants européens, de dire stop. Personne ne veut être celui qui dira « on arrête ». On arrête cette expérience dramatique de l'euro parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'issue à cette construction. Angela Merkel l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu, lors de ce énième sommet, ça fait le dixième où on nous dit qu'on a sauvé la Grèce, qu'on a sauvé l'Europe. Hein. Avant il y en avait un tous les deux mois, maintenant il y en a toutes les semaines. Eh bien Angela Merkel, moi je l'ai entendu dire, c'est la dernière fois. Nous n'irons pas plus loin. L'Allemagne n'ira pas plus loin dans les propositions qu'elle fait. Ça veut dire que l'euro, je le pense, est condamné. Je condamne l'irresponsabilité de ceux qui essayent de gagner du temps, mais un temps qui coûte aux Français un prix exorbitant et qui va rendre cette sortie inéluctable de l'euro plus difficile demain qu'elle ne l'aurait été hier, si elle avait été faite non pas dans la panique et la catastrophe, mais dans la réflexion et dans la raison.
Étienne Moujot. Madame Le Pen, je me situe dans votre cadre. Nous sortons de l'euro de manière concertée, c'est possible. Il reste près de 2000 milliards d'euros de dette de la France. On rembourse comment ? On monte des impôts, on baisse les dépenses, on souffle en l'air, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, d'abord on ne souffle pas en l'air, ce serait trop facile. Et il y a deux grandes voies pour régler le problème de l'endettement de la France. La première grande voie, ce sont des économies. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a fait le choix de taper toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur les Français. Avec des situations de paupérisation maintenant quasi généralisées de la France. Vous n'imaginez pas dans quelle situation vivent les Français qui sont à la campagne notamment, qu'on n'entend jamais. Vous savez, ces citoyens transparents n'ont pas eux non plus voix au chapitre. Vous n'imaginez pas les restrictions des classes moyennes.
Si j'imagine bien, je vous demande comment on résout le problème.
Vous l'imaginez bien. Alors il faut faire
des...
Oui mais monsieur, c'est important, vous me posez une question.
Non, bien sûr.
Je vous réponds, je n'aurais pas fait le choix de Nicolas Sarkozy. Bon,
d'accord, on a compris ça, on sait.
Ah bah écoutez, je suis heureuse que vous le sachiez, j'espère que les Français le savent aussi.
Je l'ai compris.
Chacun a sa manière d'être prévisible, si vous savez.
Voilà, je pense, c'est ça. Qu'il y a de grandes économies à faire dans notre pays parce que nous gaspillons depuis des années. Les grandes économies à faire, elles passent d'abord par des économies sur l'immigration. Sur l'aide médicale d'État, vous savez, qui est accordée aux clandestins.
C'est quoi les économies sur l'immigration
coûte...
On renvoie... Ceux qui sont là...
Monsieur, on arrête de faire venir 200 000...
Pour l'instant, on a une dette sans
monsieur,
en faire
si vous pouviez avoir l'aimabilité de me laisser terminer ma phrase. Donc on arrête de faire entrer 203 000 étrangers en situation légale dans notre pays. Jamais on en a fait entrer autant. Alors que nous savons que nous importons des chômeurs, puisqu'il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays. On supprime l'aide médicale d'État. Je vous rappelle que c'est 588 millions d'euros. Voilà déjà une économie. On supprime la niche fiscale de M. Copé, par exemple. C'est 3,5 milliards d'euros par an. C'est un avantage fiscal réservé aux grands groupes qui n'a eu aucun résultat sur l'emploi. On supprime la contribution française au budget de l'Union européenne nette, qui est de 7 milliards d'euros par an. On baisse de 2% les dotations de l'État aux conseils régionaux et aux conseils généraux. Pourquoi ? Parce que je crois qu'un des grands gaspillages se fait certes par l'État, mais pas seulement. Il se fait aussi par les collectivités territoriales qui ne cessent d'augmenter en permanence leur budget, qui ne cessent de multiplier les subventions à des centaines ou des milliers d'associations qui, en général d'ailleurs, n'ont pas d'adhérents. Et qui ne cesse d'embaucher aussi. Et ça, c'est intéressant. Une petite parenthèse.
On est loin des 2000 milliards de dettes.
Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. La réduction par 4 de la fraude fiscale, c'est 15 milliards d'euros par an. La réduction par 5 de l'asile, qui a explosé dans ces dernières années, c'est 300 millions d'euros par an. Je viens de vous donner l'équivalent à peu près de 25 milliards d'économies sur l'année. Mais pas seulement. Parce que vous savez très bien qu'on a souvent dit... Ah oui, mais regardez comme l'État est sage, il baisse un fonctionnaire sur deux. Ça, c'est une escroquerie.
Il en faudrait combien ? Deux sur trois ?
Monsieur, il ne faut pas, je le crois, toucher à la fonction publique d'État. La fonction publique d'État, ce sont des professeurs, ce sont des policiers, ce sont des gendarmes, ce sont des médecins. Et ceux-là sont essentiels. Et leur disparition a un coût social bien plus important que le coût simplement de leur salaire.
Il n'y a pas trop de gens dans les administrations centrales. Par exemple, à Bercy, il n'y a pas trop de gens.
En revanche, monsieur, il faut absolument réduire massivement la fonction publique territoriale. Je voudrais vous donner un chiffre. La fonction publique territoriale a augmenté de 18,52% sur les 7 dernières années. C'est-à-dire que lorsqu'on supprime un fonctionnaire d'État, on en embauche deux dans la fonction publique territoriale. Non, monsieur, or, à champ constant. Sans parler des transferts liés à la décentralisation.
Pas beaucoup, mais si on peut juste tout de même. Vous disiez, ces Français des campagnes, vous ne les voyez pas, vous n'en parlez pas, cette masse silencieuse. Précisément, les collectivités territoriales apportent à ces gens-là des services publics, des aides qui leur sont sans doute importantes. Vous préservez toute la fonction publique d'État,
je ne parle pas des
et si vous faites porter l'effort, pour en terminer juste, sur les collectivités territoriales, ces masses invisibles que vous évoquiez tout à l'heure risquent de le sentir
avec douleur. Je vais donc vous redonner ce chiffre. Ce chiffre a augmenté sans compter les transferts de compétences. C'est-à-dire que c'est de l'augmentation pure. Et c'est parce que notre pays est en voie à nouveau de féodalisation. On crée des féodalités. On a des seigneurs dans les régions qui ont besoin d'avoir des cours. Ces cours sont constitués d'employés. Plus ces employés sont nombreux, plus le seigneur de la région est puissant. Le problème, c'est que justement, ça ne répond pas à la disparition des services publics, notamment la disparition des services publics dans les campagnes. Ça ne contrebalance pas la baisse des médecins qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à l'hôpital, vous avez toutes les raisons d'avoir peur d'aller à l'hôpital. Parce que le niveau des soins qui sont apportés a baissé. Et ça n'est pas de la faute des médecins, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Parce que les investissements dans l'hôpital ne sont pas suffisants.
Parallèlement, sur l'hôpital,
toutes les économies qui sont faites, mais ce sont les médecins qui le disent.
Qui rencontrent des problèmes.
Et aussi les patients.
Que le niveau de sécurité
a baissé. Toutes les économies qui sont faites sont faites sur les plus fragiles. On ne cesse de dérembourser des médicaments en permanence. Or, monsieur, il faut arrêter de nous raconter des histoires. À chaque fois que je vois des listes de déremboursement, je connais tous les médicaments. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a plutôt une bonne santé. C'est donc bien parce que ceux qui sont déremboursés ne sont pas ceux qui sont les moins efficaces, mais ceux qui, évidemment, sont le plus utiles et sont le plus prescrits et qu'ils sont utilisés par le plus de nos compatriotes. Tout cela n'est pas juste, n'est pas raisonnable.
C'est pas pour embêter les gens que les listes sont constituées.
Non, mais on constitue des listes avec les médicaments qui sont les plus utiles et qui sont les plus utilisés par les patients.
Ceux qui ne sont pas utilisés, effectivement, non, mais il n'y a pas besoin de les
qu'on ne nous raconte pas que c'est parce que, en l'occurrence, ils ne sont pas efficaces, parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas la vraie raison.
Donc, le gouvernement vient d'annoncer la baisse de... Madame Le Pen, le gouvernement vient d'annoncer la baisse de sa prévision de croissance à 1%. Donc 6 à 8 milliards d'économies substantielles à trouver en plus avec donc un nouveau plan de rigueur. Parmi les premières pistes qui semblent se dessiner, il y aurait une hausse ciblée de la TVA sur certains, TVA sur la restauration peut-être, les services aux personnes et puis l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que ces mesures vous paraissent aller dans le bon sens ?
Non. Ces mesures ne me paraissent pas aller dans le bon sens parce que, comme d'habitude, ce sont la classe moyenne et la classe populaire qui vont souffrir le plus de ces mesures.
Pas l'impôt sur les grandes sociétés.
Monsieur, moi, je suis pour une réforme assez profonde de la manière dont la fiscalité est appliquée, notamment aux grands groupes. Parce que je m'aperçois, comme tout le monde d'ailleurs, que les grands groupes sont les seuls à échapper en réalité à l'impôt. La niche Copé, pour cela, était un véritable scandale compte tenu du coût qu'elle a constitué. Et je m'étonne de voir qu'elle n'est pas d'ores et déjà...
La niche Copé.
C'est une exonération pour les grands groupes
c'est une fiscalité
qui ont coûté 3,5
sur les sociétés, ça devrait pas vous déplaire.
3,5 milliards. Moi, je pense que ce sont sur les PME et les PMI qu'il faut s'appuyer. Il faut leur donner de l'oxygène. Elles en ont besoin. Ce sont elles qui créent l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle je proposerai une fiscalité qui soit progressive pour permettre qu'elle soit moins forte sur les PME-PMI et plus forte incontestablement sur les grands groupes parce qu'il m'apparaît que ce ne sont pas eux qui aujourd'hui créent l'emploi dans notre pays. Mais il n'y a pas que cela à faire. Il y a aussi à agir sur la bureaucratie parce que c'est une véritable rupture de concurrence. Mais il n'y a pas que cela
à
faire. Il faut aussi créer les conditions... Ah ben la bureaucratie que subissent les PME-PMI. Ça vous a pas frappé d'ailleurs, monsieur Apathy, ça vous frappe.
Je vous écoute depuis tout à l'heure.
C'est vrai ?
Oui, comme j'écoute toutes les personnes évidemment qui sont devant nous dans cette émission. Et alors, j'ai noté quelque chose de neuf. dans votre discours, et puis tout à coup le terme de bureaucratie me paraît contradictoire avec ce que j'avais noté, c'est votre défense qui est très nouvelle de la fonction publique d'État. Jusqu'à présent, le discours du Front National était un discours antifonctionnaire. On en retrouve la trace dans l'évocation de la bureaucratie.
Mais pourquoi
à l'instant.
Et alors, la bureaucratie aujourd'hui.
La nouveauté que j'avais cru déceler, en fait, non, la bureaucratie, elle est quand même dénoncée. Je ne sais plus trop.
Est-ce qu'il vous a pas frappé tout de même, ouais. Cette Union européenne qui s'est construite sur l'ultra-libéralisme.
Ah, vous parlez de la bureaucratie européenne alors.
Bien sûr, parce que c'est aujourd'hui la bureaucratie française. Mais je vous signale que c'est
pas de bureaucratie en France.
Mais c'est aujourd'hui celle que subissent de plein fouet les entreprises. Pourquoi? Et les particuliers d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a une bureaucratie en France?
80% des directives, 80% de nos lois sont en réalité des directives qui sont directement appliquées en France. Or cette Union européenne ultra-libérale qui nous a expliqué que l'économie ne devait subir aucune contrainte, qu'il ne devait y avoir aucun obstacle au commerce, eh bien en réalité, a supprimé tous les obstacles et toutes les contraintes pour la finance, mais en revanche pour l'économie réelle, ils ont multiplié les normes, les règles, les contraintes. D'accord. Chaque jour, on en crée une supplémentaire, et ceci, bien entendu, nuit à la compétitivité de nos entreprises et à ces chefs d'entreprise qui cherchent à créer de la richesse et qui sont écrasés par l'ensemble de ces normes.
On peut noter un changement dans votre discours, ou pas, si c'est non, c'est non, mais à propos des fonctionnaires d'État. Est-ce qu'il y a un changement dans votre discours? L'habitude d'un discours anti-fonctionnaire au Front National. Est-ce que ce discours-là,
vous
l'abandonnez?
Nous sommes partis, et d'ailleurs j'en appelle à la mémoire des Français, nous sommes passés d'une France où le socialisme considérait que l'État devait s'introduire dans tous les espaces de la vie publique et même parfois privée, à l'ultralibéralisme, où là c'est l'inverse, c'est l'excès inverse, l'excès dans un sens, l'excès dans l'autre, où là c'est la loi de la jungle, où il ne doit y avoir aucune contrainte, où l'État doit disparaître, où l'on doit privatiser à tout va, où l'on doit réduire au maximum les services publics. Eh bien moi je suis la voix de la raison, voyez-vous, je suis la voix de la modération et de l'équilibre. Oui à un État fort, oui, à un État qui a une autorité pour éviter les dérives, les abus, les excès, mais oui aussi à un État qui met en place les conditions d'une libre entreprise, parce que je ne pense pas que des entreprises contraintes puissent créer de l'emploi. Et ça, si je peux me permettre, on va remonter à un étage supérieur. Parce que pour que les entreprises puissent créer de l'emploi, il ne faut pas qu'elles soient en situation de concurrence déloyale avec les pays qui fabriquent à très bas coût. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos entreprises souffrent des normes, des règles sanitaires, environnementales, la légitime protection sociale
des salariés. C'est pas sans utilité,
les normes
sanitaires.
Bien sûr, mais le problème, c'est que nous ouvrons tout grand nos frontières, monsieur Apathy. Bien sûr, monsieur, mais nous ouvrons tout grand nos frontières à des pays qui ne respectent aucune de ces règles, ni pour leurs salariés, ni pour le respect de la sécurité, ni pour le respect de l'environnement. C'est donc celui qui se tient le plus mal dans le système qui a été créé, qui en réalité s'en voit récompensé. Et ça n'est pas admissible.
Oui, mais alors justement, dans votre pré-projet présidentiel, vous avez fait de l'augmentation des droits des douanes une sorte de pierre angulaire. Alors, quelles seraient justement ces augmentations de droits des douanes? Quels pays elles toucheraient? Quels seraient les critères? Qu'est-ce que vous mettriez en place précisément?
Monsieur, tout à fait, évidemment, les Français d'ailleurs l'ont compris, si j'en crois un sondage récent, c'est l'ouverture totale des frontières et la mise en concurrence déloyale avec des pays à très bas coût de production qui a entraîné la désindustrialisation massive de notre pays. Nous, sauf à vivre comme des Chinois, nous ne pouvons pas être compétitifs avec des Chinois. Il faut donc que nous mettions en place des quotas d'importation ou des droits de douane qui vont s'appliquer, et je réponds à votre question, uniquement aux pays qui n'ont pas le même niveau économique que le nôtre, qui n'ont pas le même niveau de respect des règles sociales, environnementales, de sécurité que les nôtres.
Quel pays précisément?
Par exemple, pas l'Allemagne, vous voyez. La Chine, la Chine, tiens, parlons-en, puisqu'aujourd'hui, nos dirigeants sont en train de nous faire subir l'humiliation et le danger, d'ailleurs, pour l'avenir, d'aller réclamer à la Chine de venir soutenir notre économie, ce qu'elle ne fera pas, évidemment, par philanthropie, vous l'imaginez bien.
Tient quand même plus de la moitié des réserves mondiales.
Bien sûr,
donc
mais
c'est
monsieur...
C'est pas anormal peut-être de leur demander un soutien.
Mais monsieur, nous sommes là, nous dirigeants politiques, pour préparer l'avenir, pour assurer à notre peuple la liberté, la prospérité et la souveraineté. Accepter cela, c'est accepter que demain, il n'existe plus aucun domaine dans lequel la Chine ne puisse pas venir déverser ses produits comme elle l'a fait dans la chaussure, dans le vêtement, en entraînant la disparition pure et simple de ces secteurs économiques français.
Vous pensez que la Chine a demandé des contreparties à l'aide qu'elle pourrait apporter au FSF ?
Mais bien sûr, monsieur. Évidemment, encore une fois, la Chine a tout intérêt à deux choses. D'abord, avoir les marchés occidentaux le plus ouverts possible à ses produits. Et deuxièmement, à ce que l'euro continue à être une monnaie forte. Parce que comme l'euro fort est un gage pour l'Europe d'absence de compétitivité, ils resteront compétitifs si notre monnaie est forte. Ils ont donc tout intérêt à soutenir cette monnaie forte qui est un carcan et qui étouffe, en l'occurrence, notre avenir économique.
Alors, je vous promets, Madame Le Pen, nous fermons.
J'ai pas fini ma deuxième sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Non, mais monsieur Moujotte, c'est pas
allez-y,
ça. Tout à l'heure, vous m'avez dit comment vous faites pour désendetter. Je vous ai répondu. Je vous ai donné la première solution, ce sont les économies dont je vous ai parlé. La deuxième solution, c'est de sortir du monopole des marchés. Nous sommes aujourd'hui sous la coupe des marchés et toute mesure économique est prise, bien sûr, au marché financier. Et toutes les mesures économiques prises par Nicolas Sarkozy ne visent pas à résoudre le chômage, à régler le problème du pouvoir d'achat, à régler le problème.
Non, il a envie que le chômage augmente, hein, clairement.
Non, monsieur, ça l'intéresse peu, j'ai le sentiment. Ce qui l'intéresse, c'est de conserver son triple A, c'est-à-dire de donner des gages au marché.
Il vaut mieux le conserver, sinon, si on le perd, nos emprunts, aurons à des taux très élevés.
Savez-vous combien, depuis 1973, nous avons payé d'intérêts à ces marchés financiers ?
Non, vous avez compté.
Non,
300 milliards d'euros, c'est-à-dire presque trois quarts de notre dette, ce sont des intérêts que nous avons versés au marché. Je suis donc, et j'en terminerai, pour le retour à la suppression de la loi de 73, qui a obligé l'État français à aller emprunter sur les marchés financiers, interdisant de fait à la Banque de France de pouvoir prêter au Trésor sans intérêt, ou à taux d'intérêt très faible.
Je reviens, si vous le permettez, à la fermeture des frontières. On ferme vis-à-vis des pays dont vous dites qu'ils ne respectent pas les règles environnementales, sociales, bref, qui font de la concurrence déloyale. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Comment exportera-t-on vers ceux à qui on ferme nos frontières ?
Mais monsieur, c'est incroyable parce que quand le président de la République parle de réciprocité, qu'est-ce que vous avez entendu ? Parce qu'en réalité, protéger nos frontières et adapter d'ailleurs nos droits de douane en fonction des secteurs économiques que nous avons à protéger. Eh bien, c'est exactement ce que font quasiment tous les pays du monde, ce que fait la Chine d'ailleurs. La réciprocité qu'a évoqué Nicolas Sarkozy serait donc de mettre en place vis-à-vis de la Chine ces mêmes mesures protectionnistes. Ça n'est évidemment pas en allant s'humilier à leur demander de l'argent qu'on va pouvoir leur mettre en place la réciprocité. Vous imaginez bien qu'on ne sera pas les mieux placés. Et c'est pour ça que je veux conserver la liberté de la France et ne pas aller réclamer de l'argent à la Chine. C'est parce que je veux...
Comment nous exporterons ?
Mais enfin, monsieur, comment avons-nous exporté avant ?
Et on ne peut vendre que si on laisse.
Écoutez, moi, quand j'ai dit ça,
c'est la loi de
quand j'ai
commerce,
dit ça, monsieur, on m'a dit, mais la maximum des exportations se fait au sein de l'Europe. Eh bien, donc, il n'y a pas de problème, puisque je vous ai dit que la grande majorité des pays européens respectant l'ensemble de ces règles, eh bien, il n'y aurait donc pas de protectionnisme à l'égard de ces pays-là. Nous avons exporté, vous avez raison, en Chine. Et nous avons commis une erreur majeure. Nous avons transféré de la technologie. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement vendu des avions. Nous leur avons donné le mode d'emploi de l'avion. Aujourd'hui, cet avion, ils le construisent avec notre savoir-faire et ils le construisent à un coût qui est évidemment bien inférieur au nôtre. Et demain, ils inonderont le monde avec...
Au regard de l'histoire, le développement de la Chine est aussi inéluctable, sans doute.
Avec leurs avions, oui.
On ne peut pas maintenir un ensemble même d'un milliard 300 millions dans la pauvreté. Donc,
encore une fois,
échanger de la technologie, commercer avec lui... Ça paraît sans doute être dans l'ordre de l'histoire.
Dites-moi, expliquez-moi. Savoir, c'est quelle a été la contrepartie positive à ce transfert de technologie, sauf à nous départir de ce qu'on nous expliquait être notre spécificité. Nous avions, nous, la technologie, nous avions, nous, le génie français. Eh bien, ce génie, nous l'avons bradé. Et aujourd'hui, à partir du moment où il a été bradé, c'est terminé, si je puis me permettre, au moins pour cette technologie qui a été transférée. C'est un marché perdant-perdant.
Étienne, une réflexion rapide ?
Non, je dis, vous parlez en permanence de la Chine, parce que la Chine fait peur, et vous oubliez tous les autres, C'est-à-dire que vous voulez nous fermer l'ensemble des pays émergents en mettant des droits de douane vis-à-vis d'eux. Mais c'est une loi de la nature.
Je voudrais réarmer mon pays contre la mondialisation. Je ne veux pas monter des murs. Ça n'a pas de sens. Je veux continuer à commercer, mais pour pouvoir commercer et exporter, monsieur, encore faut-il que nos entreprises puissent le faire. Aujourd'hui, la balance commerciale est très lourdement déficitaire, et vous le savez, parce que nous importons plus que nous exportons.
Oui. Depuis 2004, ça n'était pas non plus depuis longtemps.
Je pense que c'est pas en fermant les frontières qu'on va exporter plus.
On ne ferme pas, monsieur, on maîtrise.
La suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité Marine Le Pen, présidente du Front National. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec vous, Marine Le Pen, pour la reprise de ce grand jury. Vous allez commencer, vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs de votre point de vue, mais la campagne présidentielle, et on note que votre directeur de campagne, directeur stratégique, est un énarque. Florian Philippot, 29 ans, énarque. Alors on se dit, tiens.
Quel est le souci ?
Le souci, c'est que vous avez souvent critiqué l'établissement, la haute administration, ces gens qui ont fait prendre à la France des voix qui lui sont néfastes, et puis à la tête de votre campagne,
non,
il y en a un arc.
Ce que je critique, c'est qu'au travers de ces grandes écoles, en réalité, on a mis en place un véritable conformisme.
Ben voilà.
Un conformisme de la pensée. Et vous voyez,
il y a
un certain nombre qui en sortent.
Florian
Philippot est un jeune garçon particulièrement brillant, c'est vrai, mais c'est aussi un militant, c'est quelqu'un qui a des convictions. Or, il me disait lui-même d'ailleurs que à l'ENA, ils avaient fait un sondage, je crois qu'il y avait 98% des élèves de l'ENA qui étaient pour le oui au référendum, quand, comme vous le savez, l'immense majorité des Français étaient contre. C'est là où il y a une rupture, c'est ça qui pose un véritable problème. Oh, puis après il y a l'endogamie qui fait qu'on reste entre soi. Eh bien, lui, il n'est pas resté entre
eux. Vous ne pouvez pas évacuer quand même la forme de symbole que représente une campagne du Front National dirigée par un énarque.
Mais il y a de tout maintenant, monsieur Apathy. Justement, il y a de tout au Front National. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche.
Mais qu'est-ce qui reste de votre discours antifonctionnaire?
Mais monsieur, je suis là, monsieur, pour rassembler, moi.
Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui reste? Mais est-ce que c'est une manière de dire que pendant 30 ans, le Front National a fait fausse route en critiquant la fonction publique française?
Non, mais monsieur, écoutez. Je suis là pour rassembler l'ensemble du
peuple
français.
Mais vous ne voulez pas répondre à ma question.
Mais je ne sais pas que je réponds. Je ne comprends même pas votre question.
Mais
il y a des énarques, il y a des chefs d'entreprise, il y a des postiers, il y a des agriculteurs, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes.
J'essaie de comprendre.
Tout le monde
l'évolution de votre pensée.
Venir autour de mon projet parce que je crois que c'est le meilleur. C'est
29
celui
septembre.
Qui porte
29 septembre.
Une espérance pour notre
d'accord.
pays.
Parce 29 que, septembre, vous participez à un colloque sur l'éducation.
Oui.
Et qu'est-ce que vous dites à ce colloque sur l'éducation ? Longtemps, il y a eu un malentendu entre nous. Je vous cite. Longtemps, nous avons donné le sentiment de vous regarder un ennemi. Donc, vous avez dû dire des choses qui ont donné ce sentiment. Longtemps, nous n'avons pas su vous parler et trouver les mots. Longtemps, nous avons commis l'erreur de penser que vous étiez complice ou passif face à la destruction de l'école. Donc, longtemps, le Front National s'est trompé.
Mais on peut avoir effectivement commis des erreurs. Moi, je l'admets avec assez de facilité.
Qu'est-ce qui vous en a fait prendre conscience ?
Mais je crois que le monde enseignant avait de nous une vision très caricaturale. Et probablement, nous avions de lui aussi une image caricaturale. Peut-être à cause de ses syndicats. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que les syndicats d'enseignants, qui sont, c'est vrai, très à gauche, ont mené un combat qui, à mon avis, était néfaste pour l'école. Mais il est vrai aussi que l'immense majorité des enseignants ne se reconnaissent pas du tout dans ces syndicats-là. Et c'est à cela aussi que je parlais, en disant je ne veux pas vous globaliser avec vos syndicats. C'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des travailleurs français. Ils n'ont pas à supporter les choix qui sont ceux, souvent, il faut bien le dire, critiquables de leurs syndicats.
Mais c'est une forme d'aveu d'erreur de vos analyses pendant des années.
Je veux m'adresser à tout le monde.
Bien sûr, ça je comprends.
Mais
c'est une forme d'aveu d'erreur d'analyse pendant des années.
Non, c'est une forme de. Ça a été une forme de défense, je crois, de la part du Front National, parce qu'on était très attaqués aussi. Et encore une fois, on nous globalisait, on avait une vision de nous caricaturale. Eh bien, c'est vrai que peut-être nous avions aussi de certaines visions caricaturales.
C'est pareil.
Et aujourd'hui.
Vous êtes souvent traité de parasite, et puis aujourd'hui, vous les défendez.
Oui, enfin, n'exagérons rien tout de même, monsieur. Parce que.
On reprendrait les écrits d'il y a 20 ans ?
Je ne crois pas que vous trouveriez le terme de parasite. Mmh. Mais vous caricaturez. Mmh. Oui, vous n'en êtes pas encore sorti.
Je voudrais changer de terrain.
Bon,
si
d'accord.
Vous permettez.
Oui, vous avez le droit.
Et avant votre réponse, madame Le Pen, à ceux qui disent, au fond. Le Front National souhaite l'élection de François Hollande, car ça fera exploser la droite et on pourra recomposer avec une place prééminente au Front National. Ceux qui disent ça, vous leur dites quoi?
Monsieur,
que c'est votre intérêt de voir gagner
Hollande. Ceux qui disent ça sont au pouvoir depuis 30 ans.
C'est pas eux
ils,
qui disent.
Ils ont une vision politicienne de la politique. Ils font de la politique avec un petit p. En réalité, la seule chose qui les intéresse,
mais
c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Voilà.
Mais c'est très
important, monsieur, parce que je vais vous donner un exemple de cela. J'ai vu le président de la République, moi. À la
c'est
télévision,
pas le président de la République qui vous pose
nous
la
expliquer, je vous donne une image, nous expliquer oui. qu'il était bien au-dessus de tout cela, qu'il travaillait
c'est
pour
pas
la France,
sujet. Madame Le Pen,
que
ce n'est pas
bout,
ma question.
Si, si, ça,
ce
je vais répondre à votre question. Que jusqu'au bout, eh bien, il ferait son métier de président de la République et que l'élection ne l'intéressait pas du tout.
Pas
j'ai appris le lendemain qu'il avait fait faire un sondage où il avait réuni des gens qui étaient tentés par Marine Le Pen pour savoir comment est-ce qu'ils avaient réagi à l'émission. Ce qui veut donc dire que la seule chose qui intéresse ceux qui disent cela, M. Moujotte, et je vous réponds, sont ceux qui depuis 30 ans se partagent le pouvoir, se le transfèrent les uns les autres, et moi je n'ai absolument pas cette vision-là. Je ne veux pas que François Hollande gagne, parce que je pense que François Hollande est exactement le même que Nicolas Sarkozy.
Mais ça laissera quand même un espace formidable au Front National
monsieur,
si la droite est mise en morceaux.
Monsieur,
vous le savez bien.
C'est la France qui sera mise en morceaux. Si l'un ou l'autre gagne, c'est la France qui sera mise en morceaux. Et je ne veux pas de cela. Et comme je sais très bien que la France a des leviers pour se redresser extraordinaire. Eh bien, j'en appelle à tous ceux qui veulent me rejoindre pour qu'ils viennent reconstruire avec moi. Tout ce qui a été abîmé, brisé, détruit, affaibli, peut demain refleurir. Eh bien, je pense que j'ai besoin de jardiniers qu'ils viennent autour
c'est
de moi.
C'est des images maoïstes, ça, refleurir, vous voyez. Il y a beaucoup de nouveautés dans votre discours.
C'est bien,
c'est maoïste,
on sait de là où vous...
Ah ben non, maoïste, non.
Non, les sans-fleurs, c'était bien avant, Jean-Michel Apathy.
Oui. Voilà, oui. C'était bucolique.
Oui, c'est ça.
Alors justement, vous évoquiez l'émission de Nicolas Sarkozy jeudi soir. Première question, est-ce que pour vous, le chef de l'État a lancé sa campagne présidentielle jeudi soir à la télévision? Et deuxième question, est-ce que vous n'avez pas été étonné du fait que Nicolas Sarkozy ne désigne finalement que comme seul adversaire François Hollande, puisqu'il a évoqué le programme des socialistes, il a évoqué les 35 heures, il a évoqué les propositions de François Hollande, mais il ne vous a jamais cité?
Oui,
Marine Le Pen.
Oui, il est candidat, à l'évidence. Non, je n'ai pas du tout été étonné de cela. Je remarque que les sondages, il les fait faire encore une fois sur les gens qui s'apprêtent à voter pour moi, pas sur ceux qui s'apprêtent à voter pour Monsieur Hollande. En revanche, il a besoin de la bipolarisation, Monsieur Sarkozy, pour continuer à se passer le pouvoir les uns les autres, pour continuer à se partager justement ce pouvoir et pour éviter qu'il y ait un véritable changement dans notre pays.
Il est moins inquiet ou la droite est moins inquiète d'un 21 avril à l'envers aujourd'hui.
La preuve que non. Je l'ai dit. Le Point, je crois, ou l'Express a rendu public ce sondage qu'il a fait effectuer le soir même. Non, il a besoin.
Non, je pense pas qu'on ait vu le
il
sondage.
A besoin
je pense qu'il y a eu des
la...
échos de sondage qui auraient
été faits. C'est une rumeur de presse.
Il a besoin.
Vous ne croyez pas les rumeurs
non.
de presse, Marine
il a besoin.
C'est comme ce qu'on veut raconter sur le Front National.
Il a
des rumeurs.
Il...
Non, bien sûr.
Et si quelqu'un que je connais avait fait partie de ce panel?
Ah tiens,
voilà. Ah, bah alors,
c'est vrai.
Ah non,
merci.
Ah non.
Ah, voilà. Vous connaissez quelqu'un?
Non,
ah non, c'est intéressant ça. Vous connaissez quelqu'un?
Non, je vous dis que j'en ai eu la confirmation. Voilà, c'est tout.
Quelqu'un a été sondé.
Un électeur du Front National a été sondé. Nicolas Sarkozy a besoin de la bipolarisation. Parce que c'est cette bipolarisation qui fait que depuis 30 ans, rien ne change. Et moi, j'avoue que voir le président de la République aller parler en permanence du passé, parce qu'il a les pires difficultés à parler du présent, pour la simple et bonne raison, c'est que M. Hollande n'a rien proposé de très différent de Nicolas Sarkozy, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, il aurait fallu en faire un petit peu plus, en ce sens, un petit peu moins dans l'autre. Mais sur les grandes options, ils ont exactement la même vision. Sur l'euro, ils ont la même vision. Sur l'Europe, ils ont la même vision. Sur le fédéralisme européen, ils ont les mêmes options, strictement les mêmes. Bon. Et donc, il est très difficile pour Nicolas Sarkozy de trouver des points de divergence. Alors, on sort des arguments soit complètement superficiels ou fabriqués du type le droit de vote des étrangers. Alors là, on essaye de recréer une bipolarisation entre la droite et la gauche.
Sur les 35 heures, par exemple, vous êtes plutôt dans l'approche de Nicolas Sarkozy ou celle de François Hollande?
Je l'ai dit, monsieur. Je pense que les 35 heures ont été une erreur. Mais il n'en demeure pas moins que... supprimer les 35 heures aujourd'hui, ce serait mettre les entreprises dans des très grandes difficultés, au moins aussi grandes que quand ils sont passés aux 35 heures. Je pense donc qu'il faut autoriser. Il faut autoriser la négociation par branche, mais il faut que s'il y a une augmentation, s'il y a une augmentation des heures, s'il y a une augmentation des heures, elle soit aussi une augmentation du salaire. Ben mais vous, je vous rappelle tout de même que Nicolas Sarkozy...
Vous parlez finalement comme Nicolas Sarkozy.
Excusez-moi, mais Nicolas Sarkozy, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, M. Appati. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas supprimés, les 35 heures?
Ah non, ça, je ne sais pas, ça, il faut lui poser la question, lui. On lui posera.
Ah oui, c'est ça,
on lui posera à l'occasion.
Parce qu'en l'occurrence,
là, c'est vous.
Si vous voulez, il a le pouvoir.
Vous ne remettriez pas en cause les 35
heures. Il a une majorité législative et il ne cesse de taper sur les 35 heures.
J'ai compris que vous les remettez en cause.
Il suffisait de décider de supprimer les 35 heures.
Mais vous ne le feriez pas, vous non plus.
Actuellement, je pense que je pense qu'aujourd'hui, l'économie est trop fragile, le tissu économique est trop fragile pour imposer, en tout cas, aux entreprises, un retour brutal à une augmentation des heures de travail. Je le dis clairement.
Étienne Moujotte.
Un autre sujet, le nucléaire. J'ai compris en vous lisant que vous voulez faire de la sortie du nucléaire un objectif, si je vous ai bien lu. Alors, question simple. On construit un EPR à Flamanville, est-ce qu'il faut l'arrêter? Il y a le projet d'un deuxième EPR à Pagny, en Seine-Maritime, est-ce qu'il faut le faire ou non?
Il faut le faire. Il faut le faire parce que pour l'instant, on n'a absolument pas le moindre début de commencement d'énergie alternative qui soit au niveau de ce qu'apporte le nucléaire. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on vient de nous apprendre il y a quelques jours qu'on risquait le grand blackout à Noël parce que l'Allemagne a supprimé brutalement 8 centrales et par conséquent, nous risquons d'être en pénurie d'énergie en plein milieu de l'hiver. Donc, il faut investir dans les énergies nouvelles. En revanche, ce qu'il faut faire parallèlement à l'investissement dans les énergies nouvelles, le temps de trouver une énergie qui effectivement nous permette de tourner le dos au nucléaire qui reste dangereux, c'est de sécuriser le nucléaire. Or, l'EPR, c'est justement la voie de la sécurisation du nucléaire. Alors, ce serait un peu dommage de s'en priver et de rester avec des centrales qui ne sont pas assez modernes et qui représentent évidemment un danger supérieur.
Vous évoquez François Hollande...
Retraite à 60 ans à taux plein, vous dites
40 annuités. Oui, 40 annuités pleines.
40
annuités pleines, je crois que nous avons...
Vous avez fait les comptes?
Oui, je pense que nous avons les moyens pour pouvoir verser les retraites. Encore faut-il faire un choix, M. Moujotte, c'est-à-dire arrêter...
Nous n'avons pas les moyens pour 40 annuités.
Nous n'avons pas,
vous le savez.
Voyez, je vais vous dire une chose. Demandez aux Français...
Malheureusement.
Monsieur, demandez aux Français de travailler plus.
Non, mais je ne dis pas ça.
Sans même avoir supprimé ce qui paraît fou... Sans même avoir supprimé la possibilité pour des étrangers qui n'ont jamais vécu ni cotisé en France de toucher une retraite de 750 euros par mois, je trouve que c'est tellement absurde et tellement injuste en même temps. Commençons à faire donc les économies qui, encore une fois, peuvent être faites assez facilement compte tenu du fait que nous nous prenons pour le pays le plus généreux du monde, surtout avec les autres, parce qu'avec les nôtres, on l'est moins quand même, il faut l'admettre. Commençons à lutter contre le gaspillage insensé de l'État et des collectivités territoriales. Et après, on demandera, si c'est nécessaire aux Français, de faire des sacrifices.
Mais 60 ans à 40 unités, vous plombez les comptes des retraites. C'est clair et net et démontré.
Je ne le crois pas, monsieur.
Ben, nous verrons. On pourra...
Merci beaucoup de votre confiance.
Vous évoquiez donc François Hollande. Alors, il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez confondu au Parti Socialiste... Oui, vous avez confondu Pascal Lamy, donc directeur de l'OMC, et François Lamy, directeur de campagne de Martine Aubry. Bon, on aurait pu penser que c'est une confusion de prénoms, mais est-ce que ça ne démontre pas aussi que vous ne connaissez pas si bien que ça le personnel politique, en tout cas celui du Parti Socialiste?
Écoutez, c'est vrai, je me suis trompée parce que Pascal Lamy avait été le directeur de cabinet de M. Delors. Il me semble, et qu'en l'occurrence, c'est ça. Donc, ils ont exactement les mêmes positions, d'ailleurs. Et par conséquent, c'est vrai que j'ai commis cette erreur. Mais je remarque tout de même, permettez-moi, que quand d'autres responsables politiques qui sont en charge de l'État commettent des erreurs et notamment se trompent de 200 milliards sur le niveau de la dette française, je n'entends personne venir.
Qui s'est trompé ?
C'était le président de la République.
Jeudi soir,
qui pensait, non, il y a quelques semaines, d'accord, il croyait que la dette était à 1500 milliards d'euros alors qu'elle est à près de 1700 milliards.
Ça tourne tellement
vite. Ce qui, quand même, est considérable comme erreur. Mais je n'ai pas vu un seul journaliste en parler ou l'évoquer. Bon, c'est pas grave. Je vois qu'à moi, on ne pardonne rien. Mais c'est peut-être parce que, justement, vous croyez qu'un jour je serai au pouvoir et vous êtes plus dur avec moi, tant mieux. C'est plutôt bon.
Si on fait la synthèse, retraite à 60 ans, les 35 heures défendues et les fonctionnaires d'État préservés.
Ça fait des voix.
Ah ben, dis donc,
ça fait des voix.
Vous avez une vision comptable de l'économie, monsieur Pas
monsieur comptable, Patrick. Je ne sais pas, mais là, vous êtes plus à droite.
Vous
là,
avez une vision. Non, mais monsieur,
à gauche, là,
vous avez une vision comptable. Moi, j'ai une vision dynamique de l'économie.
On a du mal à vous suivre.
J'ai remarqué. Non, mais vous pouvez très bien facilement me suivre.
Ah, oui.
Moi, je suis pour créer l'emploi et la croissance. Voyez-vous. Or, je n'ai rien entendu d'ailleurs, ni chez monsieur Hollande, ni chez Nicolas Sarkozy, qui me montre le moindre chemin, même pas un sentier, pour retrouver la croissance et l'emploi. La protection de nos frontières, le Small Business Act, le patriotisme économique que je veux mettre en œuvre pour permettre aux entreprises françaises d'être prioritaires, notamment dans l'accès aux marchés publics, l'État stratège que je défends, qui va procéder à la réindustrialisation de la France en main dans la main avec justement nos entrepreneurs. Tout cela va recréer de l'emploi dans notre pays, parce que soyez bien conscients, et on en reviendra à la dette, qu'on ne réglera pas le problème de la dette si on continue à avoir une croissance aussi dérisoire qui même risque de se transformer en récession d'ici quelques mois.
Toutes ces PME que vous évoquez, si on suit votre programme qui consiste à sortir de l'euro, par exemple, vous savez pertinemment qu'une sortie de l'euro impliquerait un surenchérissement du coût des matières premières importées et des produits importés qui sont achetés par nombre de petites entreprises françaises. Donc, est-ce que ce ne serait pas, comme le dit par exemple Laurence Parisot, un coût très dur porté aux entreprises françaises d'une sortie de l'euro ?
Eh bien, je ne le crois pas du tout. Je pense que c'est le seul moyen de sortir notre économie des difficultés dans laquelle elle est plongée. Je crois que c'est le seul moyen de rendre nos entreprises compétitives, et je pense même que les Français l'ont compris, puisqu'il me semble qu'un dernier étude d'opinion fait apparaître qu'ils sont maintenant majoritaires à vouloir que nous protégions nos frontières.
C'est
je pense qu'il y a d'ailleurs des pays
c'est de la mécanique,
plus grands que
en
nous,
France, le pétrole sera pas
plus
moins cher,
petit que nous.
Pas
oui, mais on en a déjà
ça,
parlé. On va en reparler.
Oui,
encore une fois, on peut en reparler. Je vous rappelle que le pétrole, c'est 60% de taxes et seulement 40% de matières premières. Donc la hausse serait dérisoire.
Si on supprime les taxes,
et je la contrebalance. Les Français l'ont compris, puisqu'ils ont compris que les délocalisations étaient évidemment la conséquence de cette compétition déloyale qui nous était faite. Il faut réindustrialiser le pays, nous sommes parfaitement capables de le faire. Il y a largement assez d'ambition dans notre pays, mais encore faut-il ne pas leur demander de courir le 100 mètres avec le bandeau, les mains attachées derrière le dos et le boulet attaché au pied.
Bougeotte.
Alors, on parle un peu de politique étrangère. J'ai de bonnes lectures. Et j'ai lu « Le gouvernement syrien est légitime » dans sa lutte contre les bandes armées qui veulent s'emparer du pouvoir. Jean-Marie Le Pen.
Oh.
Est-ce que...
Oh, ça faisait longtemps.
Non, mais je...
Président d'honneur du Front National.
Oui, président d'honneur du Front National.
Et en général, qui connaît la politique internationale.
C'est dommage que vous n'ayez pas retrouvé la citation de Marine Le Pen qui disait que la Libye, que nous étions en train d'armer les islamistes qui allaient imposer la charia.
Moi, j'ai retrouvé celle de Jean-Marie Le Pen, si vous voulez. Les combattants pro-Kadhafi de Syrie qui résistent au monde entier... donne un exemple de courage et de détermination.
Monsieur Moujad,
c'est pas moi. Hein,
vous avez fait
Jean-Marie.
La guerre.
Non, j'ai pas fait la guerre, moi.
Ah bah ça doit être pour ça alors.
Sûrement.
Parce que Jean-Marie Le Pen est un soldat.
Oui, mais c'est pas
et
la
c'est vrai
question.
Qu'il a une réaction de soldat. Il salue le courage même de combattants
courageuse.
Dont il ne partage pas la cause lorsqu'ils sont une minorité face, comme il l'a dit d'ailleurs, à la plus grande puissance militaire du monde.
La Syrie, Bachar el-Assad,
ce sont ses références.
Bachar el-Assad se défend.
Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler juste de la Libye ? Deux minutes ? Parce que quand même, monsieur Apathy, permettez-moi, j'ai été tout de même un peu malmenée ces dernières semaines pour avoir été la seule, comme dans l'affaire Strauss-Kahn d'ailleurs, aujourd'hui j'entends plus personne, hein, ils sont tous cachés sous les bureaux, j'ai été la seule à dire que la Libye allait tomber entre les mains des islamistes, que Benghazi était un repère d'anciens djihadistes qui, s'il prenait le pouvoir, allait transformer ce pays en un pays de fondamentalistes.
Donc il allait mieux garder Kadhafi au pouvoir.
Eh bien écoutez monsieur, on
c'était
finit,
ça, le
je vais vous dire une chose. Il aurait fallu surtout, encore une fois, ne pas participer à cette guerre en Libye.
D'accord, mais la guerre est passée, la Syrie c'est devant nous.
Ah bon, ça y est, alors le peuple libyen, débrouillez-vous avec vos fondamentalistes, hein, mais mesdames les libyennes, tant pis pour vous, on s'est trompé.
Les questions sur la Syrie ne vous gênent pas.
On s'est trompé.
Les questions sur la Syrie ne vous gênent pas. Alors ma question est simple.
Je vais y vous répondre la même chose.
Est-ce que vous pouvez penser que Bachar el-Assad est un état de légitime défense ou qu'il sert les intérêts de l'Occident ou ce que vous voulez, ou bien Bachar el-Assad, vous vous associez à ceux qui disent que... la manière dont il traite son peuple aujourd'hui le rend illégitime au pouvoir.
Monsieur, je n'ai jamais eu de contact ni avec M. Moubarak, ni avec M. Ben Ali, ni avec M. Kadhafi, ni avec M. Bachar el-Assad, au contraire de l'ensemble des responsables politiques français. qui l'ont reçu, qui ont été reçus parfois d'ailleurs avec beaucoup de confort.
C'est votre opinion maintenant.
En revanche, je pense que nous n'avons pas à intervenir en Syrie, pas plus que nous n'aurions dû intervenir en Libye. Je pense qu'il faut agir par voie diplomatique, laisser peut-être d'ailleurs la Ligue arabe le soin de le faire. Il m'apparaît que M. Bachar el-Assad est en train de mettre en place...
On ne doit rien dire, on ne doit pas dire ce qui se passe là est inacceptable,
on peut très bien critiquer les violences qui interviennent.
Votre critique de violence,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de modifications qui sont en train, je crois, d'être mises en œuvre démocratiques. Il me semble que le parti unique a été supprimé. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour tenter effectivement de permettre au peuple syrien de s'exprimer.
Dirigeant légitime.
Mais Monsieur Fer, de toute façon, il est dirigeant tant qu'il est à la tête de son État.
Il est légitime,
État.
Il peut le rester.
Écoutez, arrêtez. Vous avez des considérations affectives. Il ne s'agit pas d'aller boire un coup ensemble, voyez-vous. Non. Il s'agit de voir si la Syrie tombe, si la Jordanie ne tombe pas derrière,
Il s'agit de scruter la pensée d'une personnalité qui est candidate à l'élection présidentielle.
Il s'agit de prendre de la hauteur.
Exactement.
Être responsable.
Exactement. C'est de cela qu'il s'agit.
Être responsable.
C'est-à-dire de scruter la personnalité et les repères de quelqu'un qui veut être candidat à l'élection présidentielle en France.
Comme Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, je pense que tous ceux qui ont défendu cette guerre portent aujourd'hui la responsabilité très lourde
de
la mise en place.
La
charia dans ce pays, avec toutes les conséquences catastrophiques que va avoir ce fondamentalisme sur la liberté du peuple libyen et peut-être même sur l'équilibre de cette zone.
La politique étrangère, c'est intéressant parce que ça nous dit des choses de vous, Marine Le Pen. C'est pour ça que c'est intéressant. Je ne cache pas que dans une certaine mesure, avez-vous dit au journal russe Commerçante, à la mi-octobre, dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine.
Oui, parce que je crois que Vladimir Poutine a réussi à maîtriser les oligarques qui, dans son pays, s'étaient rendus propriétaires de l'ensemble de la richesse qui appartient au peuple russe.
Il les a maîtrisés en étant en prison, ça c'est clair.
Ben, peut-être.
Bah,
ben, écoutez, je pense qu'il y a un certain nombre de banquiers qui le mériteraient peut-être, M. Abati, vous voyez, après un procès, bien sûr.
C'est intéressant. Ah, après un procès, éventuellement.
Quand même.
Mais je vous signale que, M. Abati, je vous ai pas entendu sur la peine de mort qui a été appliquée à un certain nombre de dirigeants, là. Vous qui êtes contre ?
Vous ne m'écoutez peut-être pas assez.
Ah bon ? Moi qui suis pour, je préfère
contre...
qu'elle soit précédée d'un procès. C'est mon côté avocat.
Peine de mort contre
je suis quelqu'un de très légaliste, en l'occurrence. Je respecte la loi.
Non mais admirez Vladimir Poutine alors que ça relâche à la démocratie et pour le moins très biaisé.
Et notre relation à nous, à la démocratie en France, vous croyez qu'elle n'est pas biaisée ?
Mais la relation de M. Poutine à la démocratie, elle est biaisée ou elle vous paraît saine ?
Monsieur, la démocratie telle que nous ne la connaissons pas, hélas d'ailleurs, telle que j'espère nous la connaîtrons lorsque je serai à la tête de l'État avec le référendum d'initiative populaire, avec la proportionnelle qui permettra à tous les Français de s'exprimer, eh bien cette démocratie-là n'est pas conçue de la même manière dans l'ensemble du monde. Je vous signale que la Russie est sortie d'une période terrifiante de souffrance liée évidemment au joug soviétique, qu'il n'est pas si simple que cela que d'amener un continent soviétique à la lumière de la démocratie et de la liberté d'entreprise du jour au lendemain. Je trouve quand même que encore une fois la manière dont il a maîtrisé, dont il a mis fin aux agissements de gens qui étaient en train de voler le peuple, justifie, je crois, une certaine admiration. J'aimerais bien qu'on fasse un peu pareil de temps en temps chez nous.
Alors, vous parliez des printemps arabes.
J'allais dire Vladimir Poutine, mais c'est Frédéric Delpech.
Voilà. Vous parliez des printemps arabes. En Tunisie, donc, le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête des élections, revendique le poste de Premier ministre qui paraît tout à fait légitime. Est-ce que finalement, ce n'est pas la meilleure solution que de laisser faire la démocratie avec des islamistes qui, confrontés au pouvoir et aux réalités du pouvoir, devront faire des compromis, évoluer peut-être sans doute. Est-ce que ce n'est pas la meilleure solution ?
Vous êtes plein d'espérance.
Je vous pose la question.
Je suis moins optimiste que vous. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça ne nous regarde pas. C'est le peuple tunisien qui a choisi. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. La première chose, c'est que les islamistes peuvent gagner les élections et diriger la Tunisie. Je ne veux pas que la conséquence soit évidemment des flux massifs d'immigration en provenance de Tunisie, en provenance de Libye, et que l'Europe serait obligée de gérer alors même que notre pays s'appauvrit et se paupérise. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est que le Tunisien de France, les Tunisiens qui vivent en France ou les Franco-Tunisiens, ont voté à près de 50% pour ce parti islamiste. Il m'apparaît tout de même que c'est un violent échec pour notre politique d'intégration, puisqu'il semble ainsi remettre en cause, en tout cas pour une partie, la moitié d'entre eux, le modèle laïque qui est pourtant celui de la France depuis de bien nombreuses années.
Mais c'est la démocratie, c'est le choix.
Oui, en Tunisie, mais en France.
S'ils ont choisi un parti politique là-bas, ils l'ont fait librement.
Monsieur, vous savez très bien que je conteste ce droit de voter en France aux élections françaises et de voter en Tunisie aux élections tunisiennes. Je pense qu'on ne doit pouvoir avoir d'influence que sur un seul pays. Et ça, tout ça me permet de rappeler que je conteste la binationalité telle qu'elle s'exprime aujourd'hui.
Ce grand jury est terminé, Marine Le Pen. Merci d'y avoir participé. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même lieu, même heure. Bonsoir.